parle de Wi-Fi au cachet oriental. J'ai réfléchi totalement à cette
question. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de maîtrise des vents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange de paroles aux auditeurs. Clôture le 31 janvier dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, du 24e sommet de l'Union africaine. Dans son discours, le nouveau président de l'Union africaine, le Zimbabwean Robert Mugabe, a appelé les pays membres à mettre en œuvre les grands projets qui ont été adoptés par l'Assemblée, notamment le projet hydroélectrique Inga 3, afin de rattraper le retard qu'accuse l'Afrique en matière d'électricité, a complété la présidence de la Commission de l'Union africaine, Madame Nkosazana Dlamini Zuma. Quels sont, selon vous, les préalables pour y arriver? 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Mise en onde par Jean-Claude Nsiala, Julie Feza Bongonda est à la réalisation. Jire Longuembo coordonne cette émission présentée par Pierrot et la Meji sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocafé.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Selon Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, l'Afrique accuse un grand retard sur le plan du développement et l'amélioration de ces développements passe par la réalisation des différents projets initiés par les chefs d'État dans l'Assemblée de l'Union africaine. Parmi ces projets figurent notamment les projets hydroélectriques Inga 3 qui nous concernent nous en RDC. C'est pour cela que nous dégageons ensemble avec vous depuis des sessions des préalables pour y arriver, les avantages bien sûr de ces projets. Et pour en parler, nous avons associé à cet échange ingénieur Biaïlé Bernard, coordonnateur de la cellule de gestion du projet Inga 3. Ingénieur Biaïlé, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, quel auditeur, comment ça va?
Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager avec les auditeurs. Les soucis de chefs d'État au niveau de l'Union africaine, c'est de voir le projet Inga 3 s'est matérialisé, ce qui peut résoudre le problème des déficits énergétiques que connaît l'Afrique. Mais vous qui gérez ces projets au niveau de la cellule, bien sûr. Alors, pourriez-vous nous parler en bref où en sommes-nous aujourd'hui avec ce qui a été déjà initié au niveau de la RDC?
Merci, M. l'auditeur. Le projet Inga 3 suit son cours normal. Depuis qu'on a commencé à mettre en place les organes de suivi de la gestion de ce projet, jusque-là, on a installé trois organes. Il y a d'abord la CODECI, la commission interministérielle pour le suivi du projet Inga 3, présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ça, c'est le premier organe. Le deuxième, c'est le CEFI, le comité de facilitation pour le développement des projets Inga 3, et qui est formé par les experts des ministères qui sont concernés par le projet de développement Inga 3. Et le troisième organe, c'est la CGI 3, qui est la cellule de gestion Inga 3. Que je suis en train de coordonner. Voilà. Depuis qu'on a installé ces trois organes, le projet suit son cours normal.
Alors, le projet a été évoqué au niveau de l'Union africaine, ça représente beaucoup d'avantages. Mais alors, quels sont les avantages aujourd'hui de ce projet Inga 3 pour la RDC, mais aussi pour l'ensemble du continent?
Le projet Inga 3 a cette particularité d'être un projet intégrateur. Donc, c'est un projet qui est pas uniquement pour la RDC, mais pour toute la sous-région en fait de l'Afrique. Comprendre que c'est un projet qui va produire vers 2020-2022 4800 MW. Dans un premier temps, ces 4800 MW seront partagés entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Oui, donc il y a 2500 MW qu'on a réservé à la République sud-africaine. Et comme on va traverser beaucoup de pays avant d'arriver à la République sud-africaine, donc il y a la Zambie, il y a le Zimbabwe, il y a les Malawi qui vont en profiter aussi. C'est pour cela que je dis que c'est un projet intégrateur. Mmh. Et les 2300 mégawatts seront réservés à la République démocratique du Congo. Mmh.
Mais par rapport aux différentes interventions, quelle est la responsabilité d'autres pays dans les interventions? C'est uniquement un investissement entre l'Afrique du Sud et la RDC ou il y a d'autres pays qui sont aussi intéressés en termes de capitaux dans l'investissement?
C'est un projet qui sera développé en partenariat public-privé.
Mmh.
Donc, il y a des partenaires privés plus tard et le gouvernement congolais de l'autre part. Donc, il y a une bonne part de l'investissement qui proviendra de l'investisseur privé.
Mm-hmm.
Il sera composé, en fait, de plusieurs pays. Ça, on le fera bientôt. Mais le gouvernement aussi est décidé de participer à l'investissement de ces grands projets parce que le gouvernement doit assurer son leadership dans ce projet.
Et quand que le projet est matérialisé, comment sera organisé? Peut-être est-ce que cela est-il déjà décidé ou c'est dans l'étude par rapport à la gestion même de cette énergie à l'interne? C'est comment c'est renforcé le travail de la Société Nationale d'Électricité ou c'est toujours un partenariat public-privé pour voir comment cette énergie peut-elle être consommée en interne?
Nous attendons du gouvernement bientôt là. On est en train d'organiser un atelier du 16 au 19, un atelier pour revoir toutes les orientations stratégiques du projet avec toutes les parties prenantes du projet.
Mm-hmm.
Nous allons harmoniser nos vies, donc du 16 au 19 février maintenant, pour permettre au gouvernement de donner alors de fixer des orientations définitives sur le projet. Donc, on saura comment sera structuré, par exemple, le projet. Ça, on le saura, mettons plus ou moins dans un mois.
Mm-hmm. Voilà. Merci. On vous garde en ligne, ingénieur Diaïl et Bernard, pour échanger avec les auditeurs qui sont nombreux, qui voudraient aussi savoir, mettre un point de vue, savoir les avantages, comment arriver, comment matérialiser tout cela. Il y a Franklin et Joseph qui sont à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. 081-890-6315, c'est pour tout cela qui voudrait bien intervenir en direct dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Franklin, vous êtes à Bukavu, au Sud-Kivu, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio de la Paix, bonjour à notre invité.
Vous avez suivi les précisions avec notre invité Franklin. Pour vous, comment on peut arriver à réaliser, à matérialiser ces projets évoqués d'une manière on peut dire intéressée par l'Union africaine?
Oui, c'est pas seulement l'Union africaine qui est intéressée parce qu'on a suivi depuis longtemps et il y a beaucoup de partenaires qui s'intéressent beaucoup plus au projet INGA. Mais moi, je pense que là, tous ces projets-là, tous ces partenaires doivent avoir l'assurance. Premièrement, il doit y avoir une stabilité politico-économique au niveau du pays. Parce qu'on peut tout dire, les partenaires peuvent avoir de bonnes prestations, mais si au niveau du pays, il n'y a pas une stabilité politico-économique, aucun de ses partenaires ne peut accepter de venir injecter des fonds pour obtenir un tel projet. C'est vrai que c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui peut être bénéfique à plusieurs partenaires, mais je pense qu'il existe encore, parce que c'est au niveau de la RDC que nous devons donner d'abord les premiers pas. On peut dire que l'Union africaine a tendance à cette présentation-là, c'est vrai, mais est-ce qu'au niveau interne, nous-mêmes, d'abord, qu'est-ce que nous en faisons? Parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui arrivent, mais on ne sait pas où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons. Il y a beaucoup de partenaires autour de ces projets-là, mais ça bloque toujours. Et moi, je pense que c'est au niveau d'abord interne que nous devons définir nous-mêmes notre politique sur INGA. Deuxièmement, il faut expliquer à la population et faire comprendre à la population les avantages que nous avons à mettre en place ce projet-là. Parce que nous avons beaucoup de barrages ici, à l'Est et partout au pays. le barrage est situé au niveau de notre pays, mais l'électricité est consommée ailleurs. Ça aussi, ça peut provoquer une autre phobie au niveau de la population et penser que même si Inga, le projet Inga est matérialisé, ça sera plus bénéfique pour les étrangers et non pour les pays. Ça, en fait, je pense que ce sont là des préalables qui doivent être réunis au niveau interne. Nous devons d'abord nous-mêmes nous organiser et définir notre propre politique sur Inga et non attendre seulement que les étrangers viennent nous proposer des projets sur Inga. Deuxièmement, nous devons faire comprendre à la population les pieds fondés, les avantages et les pertes que nous avons à mettre en place ce projet.
Merci. Merci beaucoup, Franklin. Vous estimez, Franklin, que parmi les préalables pour vous, il faut une stabilité politico-économique sur votre souci. Il faut que du côté de la RDC, on donne aux différents partenaires les assurances. Mais cette question sera posée tout à l'heure à notre invité. Vous avez dit que nous devons définir notre politique, c'est-à-dire des orientations que nous voulons avec les projets INGA, mais mener aussi une campagne de sensibilisation de la population pour qu'elle comprenne les avantages de ces projets INGA 3. Merci beaucoup, Franklin de Bukavu. On reste à la même ville avec Joseph. Joseph, bonjour.
Oui, bonjour, merci de m'avoir accordé cette parole. Je voulais aussi ajouter pour ceux dont Franck vient de dire, si c'est de tout ce qui se passe, ces projets, c'est magnifique pour le pays. Mais on se pose beaucoup de questions qui vont avoir les meilleurs, disons, pourcentages. Est-ce que s'il y a ces partenaires, est-ce que c'est pour les projets de la RDC ou bien est-ce que c'est pour qu'ils en profitent? Puisque je vous donne l'exemple typique ici à Bukavu, on a beaucoup de barrages, mais ce sont les étrangers qui s'en occupent beaucoup et nous autres n'avons pas d'énergie. Alors si le pays pourrait prendre un engagement avec ces étrangers pareils pour nous offrir, disons, des barrages, c'est magnifique. Et regardez les pourcentages que les Congolais aussi doivent avoir. Au lieu de signer les contrats, et puis c'est les étrangers qui en profitent beaucoup. Nous avons beaucoup d'atouts, mais malheureusement, les contrats que le gouvernement signe, c'est le contraire de ce que nous vivons au sein du pays. C'est ce que je voulais dire, puisque c'est déplorable de tout ce que nous voyons ici à l'Est. Les Rwandais, il y a du courant du jour au jour, au Burundi comme ça, mais ici à l'Est, il n'y a pas d'énergie. Hier, pour suivre les matchs, c'est très compliqué.
Votre souci, Joseph, c'est que vous voulez qu'une fois le projet matérialisé, que cela puisse profiter aussi à la population congolaise, comme l'a dit tout à l'heure Franklin, qu'il faut expliquer à la population l'avantage de ce projet et à quelle hauteur cela peut profiter à la population. Notre invité a parlé de 2500 mégawatts pour la rue centrafricaine et aussi 2000 les autres qui pourront donner des précisions pour la RDC, mais sans quel terme. Alors, vous l'avez suivi.
Merci, Pierrot. Je voulais ajouter.
Oui, allez-y, rapidement.
À propos de ces contrats, nous déplorons de ce qui se passe. Vous verrez que les pays étrangers en profitent beaucoup, mais nous autres, au sein des pays, nous souffrons. Je vous dis que hier, pour suivre les matchs, c'était catastrophique. Il faudrait que nous ayons des groupes. Alors, si on signe des contrats pareils, il faut regarder. Regardez comment nous étudions, nous les étudiants. Il n'y a pas d'énergie avec des bougies, mais si on signe des contrats, est-ce que c'est la population qui va,
c'est ça,
va avoir tous les atouts?
Voilà, si la population pourra bénéficier de ces projets. Nous revenons à vous, ingénieur Ebiaïl et Bernard. Vous avez suivi des auditeurs. Il y a Franklin qui dit oui, c'est bien. Mais pour lui, il souhaite que nous puissions, de l'autre côté de la RDC, avoir des orientations claires, bien définies, avec des assurances à donner aux partenaires, et aussi mener la campagne auprès de la population pour expliquer les biens fondés de ces projets INGA 3. Joseph Debouka vous dit la même chose. Oui, c'est mieux d'investir en partenariat avec d'autres pays, mais est-ce qu'il y a des assurances que la population pourra bénéficier de l'énergie INGA 3? Voilà un peu les préoccupations de ces deux premiers auditeurs.
Merci beaucoup, monsieur J.R. En fait, monsieur Franklin et monsieur Joseph ont vraiment raison. Mais je vous dis la particularité de ce projet. C'est un projet qui a un coût de 12 à 14 milliards de dollars. Et on n'a jamais construit un projet de telle ampleur dans notre pays. C'est pour ça que le gouvernement a voulu que ce projet soit développé en partenariat public-privé. pour que le privé y apporte le plus de fonds possible. Vous comprendrez avec moi que quand vous utilisez l'argent du privé, ils veulent s'assurer que réellement il y aura retour sur leur investissement. Avant qu'ils viennent investir, vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
C'est pour cela qu'on a voulu d'abord s'assurer, n'est-ce pas, que l'énergie sera bel et bien consommée et payée. Tous les traités qu'on a signés avec la République africaine, qui s'est engagée à acheter 2500 MW. Là, on a de l'argent sûr pour que le retour de l'investissement soit assuré.
Uh-huh.
Oui. Donc, c'est vraiment un arrangement institutionnel pour rassurer les investisseurs qui viennent investir dans ces projets. Mais le gouvernement, donc la RDC, se tire aussi très bien avec 2300 MW qui seront consommés dans le pays. Notez que, à ces jours, dans le pays, il y a plus de 1500 MW qui sont consommés.
Uh-huh.
1500 MW. À cela, si vous ajoutez 2300 MW, je ne crois pas qu'il y aura encore de délestage qui détruit nos amis Franklin et Joseph à Bukavu. Donc tout cela sera du temps passé, et même si on réhabilitait toutes les centrales qui sont maintenant en fonctionnement, et qu'on en construisait deux ou trois, on ne saura pas atteindre la puissance énergétique de une à trois basses chutes.
Mm-hmm.
C'est pour cela que vraiment on doit réaliser une à trois basses chutes pour arriver à, à finir avec le délestage qu'on connaît, et à éliminer justement les déficits énergétiques qu'on connaît à ce moment.
Voilà. On vous garde en ligne, il y a Bénin qui est ici à Kinshasa, Franck est à Gien, à notre fiche 081-890-6315. C'est le numéro d'appel Bénin, vous êtes avec nous à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi ces plaidoyers au niveau de l'Union africaine pour la réalisation du projet Inga 3 et Simon, qui s'appelle résoudre vraiment le problème de déficit énergétique que connaît l'Afrique aujourd'hui. Et notre invité a donné des précisions et des orientations par rapport à ces projets. Pour vous, quels sont d'autres préalables pour arriver vraiment à matérialiser cela?
Alors, d'abord, je vous prends en cours. Je voudrais peut-être demander à notre invité de faire un retour un peu en arrière. Dans la gestion de projet, le temps est l'élément important.
Mm-hmm.
Il peut nous délimiter dans combien de temps ce projet peut être réalisé. Ça, c'est le premier élément.
Okay.
Et de deux, il venait de parler de l'Afrique du Sud qui aura une capacité, peut-être qu'il venait de le dire là. C'est, il parle d'acheter. Bon, est-ce qu'il peut aussi expliquer les modalités, à part l'argent? Parce que si l'Afrique du Sud achète autant de mégawatts, il y a à savoir, bon, je ne veux pas l'amener dans des petits détails, mais quelles sont les procédures, comment ça va s'acheter, et à part l'Afrique du Sud, parce que le plaidoyer ne vient pas de l'Afrique du Sud, non, oui, de l'Union africaine, l'Afrique du Sud y compris, je pense. Mais je voudrais seulement dire à l'invité que des projets comme ça sont toujours les bienvenus pour les Congolais, surtout qu'il s'agit de l'énergie électrique.
Mm-hmm.
Mais qu'il se rappelle que le celui-là n'est pas le premier de tous les projets que nous avons, et que il est obligatoire de rappeler, que tout le monde le sache aussi, que l'électricité faisait la priorité depuis 2006 dans le programme de 5 chantiers de chef de l'État, et que de 2006 à aujourd'hui, s'il faut que même le peuple vérifie, les gens les ordinaires vérifient qu'est-ce qu'on appelle une priorité, on sait que dans l'État, c'est quelque chose qui prend de l'avant. Alors, si on arrive à avoir un beau projet comme ça, de toute façon, comme j'ai dit, l'élément temps est le plus important, et la part de la RDC, est-ce qu'on peut aussi estimer même le prix? L'Afrique du Sud achète à combien? C'est 2000 quelques mégawatts, il a dit. De plus, aujourd'hui, il a parlé de 1500 mégawatts, mais c'est insuffisant. Toutes les plaintes que nous recevons de Bukavu, il y a un ami qui a dit qu'ils ont mal suivi le match. À Kinshasa, il y a des délestages. Les provinces, ce sont des petites centrales hydroélectriques qui s'en occupent. Est-ce que il peut vraiment nous rassurer qu'avec ce projet bien vanté, on peut trouver une solution? Voilà ma préoccupation.
Merci beaucoup, Bénin. Vous parlez du facteur temps. Si on peut avoir des précisions, c'est dans combien de temps la réalisation de ces projets. Et vous avez voulu savoir aussi, mais par rapport aux modalités d'achat et procédures entre l'Afrique du Sud et la RDC, mais vous estimez qu'en tant que priorité à l'électricité, il faudrait qu'on puisse voir la part hein, qui est dans cet investissement, la part de la RDC, c'est que la RDC doit gagner dans cet investissement. Mais vous avez beaucoup insisté sur les facteurs temps. Merci beaucoup, Béna Franck. Vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité et aussi à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Vous avez suivi les uns les autres le projet, l'invité a donné les avantages, mais on est dans la faisabilité du projet, comme il a dit, suffisamment avancé pour vous, le matérialiser et pour que cela profite à la population. On doit passer par quoi, Franck?
Et merci beaucoup pour la parole accordée. Je commence par faire une observation à notre invité, et cette observation tient lieu d'une question directe. En deuxième position, je vais faire une évaluation telle que moi je comprends un peu comment ça se passe. Mon observation porte à ceci. Monsieur l'invité, comment est-il possible qu'on parle de ce projet au niveau de l'Union africaine en présence de certains chefs d'État sans que notre gouvernement congolais ait déjà une feuille de route préalable claire pour la matérialisation de ce projet? Parce que, quelque part au début, si je vous ai bien suivi, vous avez dit que dans un mois, le gouvernement va se rencontrer, il y aura des ateliers pour réévaluer. Je crois que je vous ai bien compris à travers vos mots, à travers vos phrases. Je vous repose la même question. Mais comment est-il possible qu'on ait déjà parlé de ce projet, qu'on ait pris autant de dispositions, si le gouvernement congolais, sur qui ce projet sera réalisé, n'a pas encore une feuille de route claire? Alors maintenant, pour évaluer, moi je dis ceci, l'intention de nos dirigeants africains en soi est louable, parce que sans accès à l'énergie électrique, sans cette énergie, aucune phase du vrai développement de nos multiples nations africaines ne serait effective. Ça vaut la peine de le réaliser, c'est nécessaire. Mais par ailleurs, nos citoyens congolais de la RDC devons aussi avoir un regard assez réaliste, devons aussi présenter nos exigences citoyennes pour que la matérialisation de ce projet soit d'abord plus bénéfique pour nos peuples, pour nos milieux de vie. Monsieur le journaliste, nous étions des enfants quand on construisait Inga 1 et Inga 2. Ce qu'on nous disait à ce moment-là au cours des civismes, on nous faisait croire que ce projet de Inga 1 et 2 serait salutaire pour la République démocratique du Congo, que le vrai développement de la RDC à l'époque Zaïre en dépendait. Actuellement, j'ai déjà plus de 35 ans. Je suis en train de me demander, en réévaluant certaines promesses faites, vraiment en toute lucidité, je suis en droit de dire à notre invité que moi, personnellement, je suis loin de me laisser convaincre favorablement. Inga 1 et 2 ont été matérialisés alors que 80% des cités et villes de la RDC n'en bénéficient même pas. Dans le Bas-Congo même, où ces barrages sont construits, tous les milieux de vie ne sont pas électrifiés. Dans la ville même de Kinshasa, vous êtes là sur place, vous savez ce qu'est la qualité de l'énergie électrique qu'on utilise là. Certains poteaux construits traversent certaines villes sans que les habitants de toutes ces villes-là puissent en avoir accès. Donc moi je ne suis pas là pour émettre un point de vue vraiment pessimiste sans fondement. Je sais par ailleurs que le développement des États de notre monde actuel à l'heure de la mondialisation se matérialise en faisceau, nous le savons. Pour reconnaître que je reconnais qu'on doit se servir des potentialités de tel et tel autre État pour amorcer les vrais processus du développement. Et c'est là notre invité l'a aussi dit quand il a évoqué le projet intégrateur entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et comme le poteau va traverser un certain nombre de pays, ces pays-là peuvent aussi en bénéficier. Mais maintenant, pour reposer la même question telle que nos compatriotes de Bukavu l'ont abordé et M. Benabekine, est-ce que l'invité peut vraiment nous rassurer quelles seraient les retombées de ce projet par rapport aux citoyens congolais. Est-ce que les citoyens congolais seraient-ils les premiers bénéficiaires ou on veut seulement se servir de la RDC comme tremplin pour réaliser un projet dont les citoyens congolais eux-mêmes n'en seront même pas bénéficiaires?
Donc,
quand on se servir comme ça, monsieur l'invité, vous devez savoir que vous avez affaire avec des citoyens congolais qui suivent un peu de près ce qui se passe dans ce pays-là. Ne pensez pas que nous nous contentons seulement de l'expression, de la phraseologie. Nous voulons un peu voir ce que vous dites être matérialisé. Moi, je suis déjà pragmatiste. Je suis loin de spéculation. De spéculation, on en a entendu à RDC. Vous allez nous faire des promesses, mais moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, comme vous parlez au nom du gouvernement, comme vous êtes en contact avec ces décideurs, comme on vous a mandaté pour nous parler de la matérialisation de ces projets, donnez-nous des garanties que ces projets seraient d'abord bénéfiques pour le peuple congolais. Parce que construire une latroie, ce n'est pas là le problème. Vous savez les dangers que les peuples congolais vont courir du côté de l'environnement. Donc, il y a des dangers que nous allons prendre. Mais moi, je crois qu'on ne peut pas seulement demander à un peuple de mettre à la disposition son territoire, ses potentialités, et de quelle est si la matérialisation de tous ces projets ne lui profite pas.
Merci.
C'est comme si...
Merci beaucoup, Franck. Il y a beaucoup d'auditeurs sur le standard, parce que la question vraiment intéresse beaucoup de compatriotes. Il y a Christian qui est à Calémie et d'autres aussi qui voudraient bien intervenir. Mais vous avez illustré avec un exemple Inga 1, Inga 2. Quand vous étiez enfant, on vous promettait que ces projets, une fois matérialisés, ça devait résoudre le problème d'électricité à travers le pays. Le problème n'a pas été résolu en grande partie à travers le pays. Et votre souci, c'est les soucis des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, l'invité peut nous donner des garanties et assurances qu'une fois les projets matérialisés aujourd'hui, cela va profiter à la population et ça va résoudre le problème de déficit énergétique que nous avons aujourd'hui. Mais la question par rapport à l'impact environnemental, il pourra nous répondre, mais aussi les orientations claires au niveau du gouvernement et la feuille des routes, parce qu'il a parlé des ateliers qui doivent avoir lieu prochainement. Cette question sera aussi à aborder. Merci beaucoup, Franck. On va écouter Christian qui est à Calémie dans la province du Katanga. Bonjour, Christian.
Bonjour, Pierrot, c'est Christian Mayende.
Christian, on vous écoute.
Comme on le dit toujours, monsieur le journaliste, la main qui donne est accompagnée toujours par un retour, si je peux le dire à ce sens. Est-ce que l'invité peut nous donner les coûts de notre investissement dans ces projets? Parce que si vous remarquez que l'Afrique du Sud donne un grand montant et les autres partenaires, c'est dans ce sens qu'on va aussi récupérer l'énergie. Qu'on ne nous trompe pas, si l'Afrique du Sud donne beaucoup de moyens, l'Union africaine donne beaucoup de moyens, ce projet n'est pas pour nous, nous ne sommes pas rassurés de ce projet. Et aussi, l'invité peut nous parler encore de combien de fois on est en train de préparer des provinces pour bénéficier de cette énergie-là. Parce que nous remarquons, le courant va partir jusqu'en Afrique du Sud. Cela nous montre que le courant peut arriver dans tous les pays. Maintenant, est-ce que l'invité peut nous montrer quel est le niveau de notre investissement et aussi combien de fois on prépare que le courant va nous arroser dans tous les pays.
Voilà, merci beaucoup, Christian. Voilà, merci beaucoup, Christian. Vous avez voulu savoir la part de la RDC dans l'investissement. À quelle hauteur intervient la RDC? Parce que vous avez peur que l'Afrique du Sud puisse donner beaucoup et qu'elle puisse beaucoup bénéficier. Mais si l'invité peut aussi nous dire si déjà au niveau de nos provinces, il y a des projets de préparation déjà pour savoir l'Afrique du Sud, c'est loin. Mais est-ce qu'on peut aussi être sûr que cela peut passer à travers le pays? Merci beaucoup, Christian. Nous allons écouter Mme Joséphine qui nous appelle de Boston aux États-Unis d'Amérique et revenir à notre invité pour qu'il puisse placer un mot par rapport aux préoccupations des compatriotes. Mme Joséphine, bonjour.
Bonjour Radio Kati.
On vous écoute, madame. Vous avez suivi les uns et les autres l'inquiétude de la population par rapport à ces projets, sa matérialisation, mais surtout comment cela peut être bénéfique pour la RDC. Mais l'invité aussi a dit, c'est un projet intégrateur, l'Afrique du Sud, la RDC, ça passe par les Zimbabwe, les Malawi, il y a la Zambie, mais tout cela, les gens voudraient savoir la part qui nous revient. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ces inquiétudes?
Mon point de vue est celui-ci.
Vous savez, hein, le Congo doit se comparer aux autres pays. Et puis, il se compare aux autres pays, mais dans le négatif, il reste toujours dans le négatif. Je vais vous donner un exemple. Là où moi j'ai vu, la ville a été construite, bon, commencée ou bien construite par un fermier qui fait le pop-corn. Enfin, le maïs qui donne le pop-corn. Pop-corn seulement. On a construit les écoles. On a, pop-corn, on a construit toute une ville. Bon, si je dois rentrer au projet Dinga, en 1970, quand on a conçu ce projet-là, c'était pour électrifier au moins un quart ou bien un tiers de l'Afrique. Quand on dit un tiers de l'Afrique, donc le Congo devait être électrifié 120%. Et puis l'électricité, ça devait être gratuit parce qu'on devait vendre l'électricité de Congo aux autres pays, comme on a commencé à faire. Alors l'argent qui devait venir de la vente là de l'électricité devait construire même toute la région de Bas-Congo. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Moi, je vous ai dit que notre invité nous dit où part l'argent qu'on paye, l'argent de la vente de notre électricité. C'est où, c'est combien, et c'est depuis quand qu'ils ont commencé à vendre, prendre l'argent là. Et cet argent là, pourquoi aller chercher des Sud-Africains? Parce que cet argent devait être servi pour faire le projet Inga 3, qui doit électrifier maintenant la moitié de l'Afrique. Vous savez, si on doit prendre le conseil du président Obama, il a dit, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu une année ou bien deux ans? Il y a le monsieur, je ne me rappelle pas son nom, qui était le ministre, ou bien c'est monsieur Bouchaboukila, qui est allé prendre l'argent.
Oui, madame Joséphine. Oui, madame Joséphine, s'il vous plaît, madame Joséphine. S'il vous plaît, madame Joséphine, on ne saura pas accuser hein, les gens dans cette émission de qui est parti prendre l'argent qui a détourné. Ça sera très compliqué à prouver, ça sera très compliqué même à accorder la parole à chacun pour venir se défendre. Mais si je dois rester dans votre optique et les soucis que nous avons pour voir le projet Inga 3 se matérialiser, vous avez souhaité, vous, qu'on pouvait, à travers Inga 1 et Inga 2, comme le disait Franck tout à l'heure, vendre l'électricité à l'extérieur et utiliser cet argent pour pouvoir matérialiser Inga 3 plutôt qu'aller chercher d'autres capitaux ailleurs. C'est ça votre souci, et voir c'est là, c'est matérialisé. Mais quand qui est parti détourner, prendre l'argent ailleurs, ça va être difficile dans cette émission de pouvoir s'engager dans un tel débat et puis accorder la parole aux uns aux autres pour se défendre. Mais nous restons dans le projet à venir, Inga 3 et la matérialisation. Vous avez demandé à l'invité si est-ce qu'avec la vente d'électricité que nous avons déjà, on ne peut pas réaliser ces projets sans pouvoir recourir à l'extérieur, à d'autres capitaux. C'est le souci même de Christian Décalémy qui disait tout à l'heure, quelle est la part de la RDC dans ces projets pour voir que la grande partie peut aussi nous bénéficier. Merci beaucoup, madame. Mais pour le reste, on ne saura pas, dommage même qu'on l'a perdu, mais pour le reste, on ne saura pas aller en profondeur sur les accusations autour des détournements ou d'argent. C'est trop compliqué à gérer. Godefroy Ayawa, qui est en province orientale, vous gardez la ligne, il est temps que notre invité ingénieur Biaïl Bernard puisse donner des réponses aux auditeurs qui se sont exprimés tout à l'heure. Je rappelle encore le numéro de contact pour intervenir en direct, 0 81 890 75.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte du recette des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages du quotidien Parole d'enfant, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un test de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs.
Okapi. Ingénieur Biaïla Bernard, vous avez suivi quatre compatriotes. Il y a notre ami Bernard de Kinshasa, Franck de Vienne, Christian de Calémie, Madame Joséphine qui nous appelait de Boston aux États-Unis d'Amérique. Si nous pouvons regrouper leurs points de vue pour gagner le temps, il y a la question temps qui a été posée par Bernard, c'est dans combien de temps les projets pourra-t-il être réalisé. Il y a notre ami Franck qui revient sur l'impact environnemental et les assurances qu'on peut avoir aujourd'hui que ce projet vraiment va arriver, va profiter à la population. Mais il a aussi évoqué la question de la feuille de route, des orientations au niveau du gouvernement pour être plus précis. Christian Décalémie, lui, est revenu sur la part. Il vous a demandé quel est le degré, le niveau d'intervention de la RDC dans ces projets en termes de coûts. Et puis, il a demandé s'il y a-t-il des travaux pour préparer les provinces à accueillir ces projets et le courant. Et Madame Joséphine est revenue sur les anciens projets. Pourquoi ne pas utiliser les recettes des Inga 1, Inga 2 pour réaliser Inga 3. Voilà un peu grouper ces préoccupations de nos auditeurs ingénieurs Bernard et Biaïla.
Merci beaucoup, monsieur l'auditeur. Je vois que le débat est très passionnant. Je vais commencer par répondre d'abord à la question du timing. Combien de temps le projet prendra pour être réalisé? D'après les études de faisabilité, c'est un projet qui doit se réaliser en 6 ans de construction. Donc, si on commence en 2016, vous mettez plus 6, on arrive plus ou moins à 2021. Voilà. Ça, c'est le point de vue timing.
Oui.
Et la personne qui a demandé, qui voulait voir clair sur la feuille de route, il existe dans le projet un chronogramme non détaillé, mais qu'on doit ajuster encore, qu'on doit actualiser, parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de considérations.
Oui.
Et je vous ai parlé de l'atelier qui va se tenir bientôt. 16 au 19. Donc, un des points, c'est justement déterminer avec précision le chronogramme ou le chronogramme du projet.
Mm-hmm.
On continue maintenant à d'autres questions. Les retombées de ce projet par rapport aux citoyens congolais. Je vous ai dit que la RDC va bénéficier de 2300 MW.
Oui.
Et que la consommation actuelle est plus ou moins de 1500. Donc le peuple congolais va gagner beaucoup. Ils auront de l'énergie à disposition, il n'y aura plus de délestage. Je ne parle pas que de Kinshasa, du Bas-Congo, mais je parle de tout le pays, parce que les régions électriques seront interconnectées.
Oui.
Il y a la région du Bas-Congo, qu'on appelle la région ouest, il y a la région du Katanga, la région sud, la région du Kivu, région est, il y a la région de l'Équateur et la région nord. Toutes ces régions seront interconnectées et vont bénéficier aussi du courant Inga, en attendant qu'on construise et réhabilite d'autres centrales.
Mm-hmm.
Donc c'est toute la population de la RDC qui va bénéficier de l'énergie d'Inga. Notez que ça, c'est que la première phase, donc Inga 3, qui sera divisée en Inga 3, basse chute et haute chute, mais ensuite il y aura Inga 4, Inga 5, jusqu'à quand on va arriver à Inga 8, on aura une production de plus ou moins 42 000 MW. Donc rien que seule la RDC ne sera pas consommée toute cette énergie-là.
Mm-hmm.
Donc là, on dit que c'est un projet intégrateur. On va alimenter beaucoup de pays africains. La dame qui a demandé où part l'argent de l'électricité que Snell vend au flanc de Inga 1 et Inga 2. Madame, ça c'est à la Snell qu'il faudra poser cette question.
Oui.
Oui, c'est à laquelle il faudra poser cette question. Mais moi, je dirais seulement que l'économie du pays va vraiment bénéficier du projet d'une latoire. Notons seulement bien qu'en cas de construction d'une latoire, rien que du point de vue création d'emplois, il y aura 7000 emplois directs créés pendant la construction. Donc, ça va bénéficier à beaucoup de Congolais. Ça, c'est bien qu'emplois directs. Il y a des emplois indirects. Il y aura plus de 10 000 emplois directs. Et pendant la phase d'exploitation, quand la centrale sera terminée, on aura plus de 700 emplois garantis. Je vous dis, par exemple, quand on va commencer à construire la centrale, il faut des cimenteries, il faut des moulins, du taillage, du sable, il faut de l'acier, de barre, de fer. Donc, toutes ces entreprises auront des débouchés terribles pour écouler leurs marchandises. Ce sera l'essor économique de ces entreprises. Et les entreprises, les usines, les populations vont tous bénéficier, bien sûr, de ce projet.
Mmh. Alors,
ça semble donner une illusion. On est en train de perdre du temps. On prend beaucoup de temps pour préparer ce projet qui est gigantesque. Vous savez qu'on doit minimiser le plus possible les risques d'échec. Je vous dis par exemple qu'on vient d'engager, de recruter un panel d'experts internationaux. Ils sont spécialistes en sécurité de barrage, en environnement et social, pour la dame qui a demandé des problèmes environnementaux. On est en train de s'occuper de tout ça. Nous avons à notre disposition des conseillers internationaux, des réfugiés mondiaux qui sont en train de revoir l'étude de faisabilité pour déterminer quelles études on doit encore mener pour bien construire ce projet.
Donc, oui, mais monsieur Biaïla, Bernard, vous avez évoqué tout à l'heure les questions environnementales. Franck avait demandé, vous avez donné la réponse. Mais il y a notre ami Christian Décalémy qui lui posait la question sur la part en termes de coûts. Il voulait savoir, vous avez évoqué tout à l'heure 12 à 14 milliards de dollars, et lui voulait savoir l'intervention de la RDC, c'est à quelle hauteur l'intervention de la RDC dans ces projets en termes de chiffres. C'est ce que Christian Décalémy demandait tout à l'heure. Monsieur Béhéla, vous êtes avec nous? Je crois qu'on a des petits soucis de ligne avec l'ingénieur Béhéla Bernard, qui est notre invité dans cette émission. Je rappelle qu'il est coordinateur de la cellule de gestion du projet Inga 3, qui fait l'objet de notre échange après que ce projet soit a été évoqué à la clôture du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. C'était en fin du mois dernier. Plusieurs dans les discours, on est revenu sur l'engagement de chef d'État à pouvoir réaliser les projets Inga 3, estimant pour le président de la présidente de la Commission de l'Union africaine que cela peut aider l'Afrique à rattraper un grand retard qui accuse l'Afrique, bien sûr, en termes d'énergie et de son développement. Pour vous, quels sont les préalables pour arriver à matérialiser ces projets? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capé en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50. Heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec le reporter de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amé.
Nous avons Maître Victor qui nous appelle de Kisangani en province orientale. Maître Victor, bonjour.
Bonjour, Jérôme Gimbo.
Merci Pierrot et l'ami Maître. Vous êtes avec nous, vous avez suivi les uns les autres, on est ensemble, oui. On tend vers la dernière partie de cette émission. Quel est votre point de vue?
Oui, merci pour l'occasion que vous nous donnez pour intervenir dans notre émission. J'ai quelques préoccupations, mais avant d'en arriver là, je voulais donner quelques illustrations. Mm-hmm. Je prends la première illustration de Laurent Désiré Kabila qui nous disait ceci. L'argent pour la construction de la République démocratique du Congo, il y en a assez chez nous. Nous en avons ici chez nous. Il disait encore, mobilisons-nous et organisons-nous. Je prends encore une autre illustration de Nicolas Sarkozy lorsqu'il est arrivé devant le Parlement congolais. Il a dit ceci, le Congo n'a pas besoin d'argent, mais le Congo a plutôt besoin d'un homme, car la République démocratique du Congo a vocation d'être la colonne vertébrale du développement de l'Afrique. Et à partir de ces illustrations, je pose la question à l'invité. Dieu a voulu que la République démocratique du Congo soit une puissance. C'est pourquoi il nous a doté de toutes les responsabilités. Pourquoi affaiblir alors la République en hypothéquant sa souveraineté en allant chercher d'autres partenaires pour la construction d'un projet comme le barrage Nga 3? Pourquoi aller chercher l'argent ailleurs pendant que nos dirigeants en ont des milliards lorsqu'ils sont à la gestion des affaires? Ma deuxième préoccupation, où en sommes-nous avec le projet de construction d'autres barrages qu'on a entendu parler, en l'occurrence Takobola et Lutembele? Où en sommes-nous avec le projet de la construction de ports en eau profonde qu'on nous a chanté dans les champagnes?
Maître Victor, nous risquons d'aborder beaucoup de choses à la fois. Nous parlons du projet Inga 3. Nous avons dit que notre invité, il est coordonnateur de la cellule de gestion du projet Inga 3. Mais si on lui demande Takobola, Katende, Lutende, les autres projets, ça va être compliqué. Même le projet de la construction du port en eau profonde, vous voyez, nous parlons du projet Inga 3, on ne pourra pas au même moment aborder la construction du port en eau profonde. On pourra trouver peut-être ceux qui gèrent ces projets-là pour pouvoir faire un débat avec eux, on pourra leur poser cette question. Mais je reviens à votre première préoccupation, vous avez insisté pour dire que pourquoi aller chercher l'argent ailleurs, pourquoi ne pas s'organiser pour trouver les capitaux ici en interne pour éviter d'hypothéquer encore notre souveraineté en insufflant des capitaux étrangers dans ces projets Inga 3, c'est ça la préoccupation. Mais pour ce qui concerne les projets de port en eau profonde, de Kakobola, Katende, c'est pas vraiment dans la gestion. Voilà, dans la gestion de notre invité. Merci beaucoup. Nous allons écouter Waxon qui nous appelle des Kolwezi dans la province du Katanga. Waxon, bonjour.
Merci beaucoup. Je suis très content de participer dans le débat.
Oui.
Je voudrais d'abord dire à notre invité, quand il dit que non, il dit que c'est toute la RDC qui aura les courants, donc l'électricité, grâce au barrage Inga 3. Je pense peut-être qu'il ne connaît pas la grandeur de la RDC. Est-ce qu'il connaît qu'à ce niveau, il y a certaines couches de la RDC, et pas ici au Katanga, par exemple dans les districts du nord Katanga, à Mukaya, à Kabongo, où il n'y a même pas de fil d'électricité? Je pense qu'il ne connaît pas. Ma question est celle de savoir pourquoi ils ont déjà ciblé des pays où le courant pourra partir, tels que la Zambie, l'Afrique du Sud, qui ont déjà un courant efficace, alors que la RDC souffre. Actuellement, que je vous parle, au moment où je vous parle, la RDC, ici à Kolwezi, on n'a même pas le courant. La radio qui vous règle, la FM, travaille sur le générateur. Si vous allez, par exemple, à Kamina, je vous informe qu'ils vivent très difficilement avec le courant. J'étais là dernièrement. Ils font maintenant un délestage journalier où c'est le courant qui vient à 6h, à 13h, ça part, ça revient à 18h, et ainsi de suite. Pourquoi songer déjà envoyer le courant hier alors que la RDC elle-même n'a même pas encore réuni tout ce qu'il faut pour que la population soit complètement satisfaite des problèmes du courant?
Merci Watson. En attendant, peut-être notre invité a pu expliquer le projet 12 à 14 milliards. Si il faudrait voir d'autres partenaires, c'est par rapport aux moyens qu'il faudrait. Si quelqu'un met des moyens dans le projet, cela veut dire en retour, il a besoin aussi d'acheter ses courants comme il y met des moyens. Mais si je reviens à vous, c'est sans point de vue, c'est le souci même de beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que le projet pourra bénéficier à la population? C'est pourquoi il a dit oui, toute la RDC. Mais vous estimez que, vu la grandeur de la RDC, il sera impossible qu'avec le 2300 MW plus les 1500 que nous avons déjà, cela puisse résoudre le problème de toute la RDC dans sa grandeur, dans sa diversité. Alors nous revenons directement à vous, ingénieur Biaïla, parce qu'il y avait cette question sur l'étude environnementale, d'impact environnemental, vous avez déjà répondu. Mais notre ami de Calémie avait posé la question sur la part de la RDC dans ces 12 à 14 milliards, c'est combien la RDC doit mettre dans ses projets Et voilà, c'est un peu cette préoccupation-là de notre ami de Calémy, monsieur Biaïla.
Merci beaucoup. C'est monsieur Biaïla, pas Biaïla.
Biaïla, merci, merci beaucoup. Merci.
Bon, je disais que pour la participation de la RDC à l'investissement, c'est une bonne question. Cette participation sera connue avec précision quand on va sélectionner les concessionnaires ou les développeurs qui vont construire les projets. Donc, les partenaires privés, comme c'est un projet qui se gère en partenariat public-privé, c'est d'abord le partenaire privé qui va donner sa mise. Voilà, sur les 14 milliards, moi je vais donner 10 milliards par exemple. Je vais mettre en jeu 10 milliards. Et le reste, c'est l'État qui va s'en occuper. Donc maintenant, on ne sait pas encore donner la participation de l'État avec précision.
Oui, monsieur Biaïla, mais quand on parle du partenaire privé, cela veut dire que l'Afrique du Sud s'enferme de l'État à État ou ce sont des investisseurs sud-africains qui sont, je peux dire, détachés de l'État sud-africain, si on peut avoir cette précision-là.
Le partenaire privé que nous sommes en train de sélectionner, nous avons à l'instant même trois groupements d'entreprises. Il y a le premier groupement qui est européen, le deuxième groupement qui est chinois, et le troisième groupement qui est formé d'une société canadienne et de deux autres sociétés coréennes. Donc ce sont les trois groupements d'entreprises qui sont en train de se battre pour en fait être sélectionnés comme concessionnaires du projet. L'Afrique du Sud, comme la RDC, pourra participer dans l'investissement privé aussi. À un pourcentage qu'on va déterminer.
Voilà. Permettez-nous d'écouter deux personnes rapidement. On revient à vous pour conclure cette émission et la note d'espoir que peuvent garder les auditeurs autour de ces projets. Philippe, vous êtes à l'ICASI, Claude à Kinshasa. S'il vous plaît, 30 secondes à chacun pour nous permettre de pouvoir conclure avec l'invité. Philippe, vous êtes avec nous, de l'ICASI, bonjour.
Bonjour, merci, monsieur.
En un mot, Philippe, vous avez écouté les uns et les autres votre point de vue rapidement.
Ok, merci. Je voulais juste poser des questions à notre invité.
Oui, allez-y.
Je voudrais juste savoir, il a dit que la construction des troisième ligne va prendre 6 ans. Et il y aura au moins 7000 emplois. Hein? C'est ça, non?
Oui, 7000 emplois direct, oui.
Oui. Alors, je voudrais juste savoir, les employés là, les gouvernements congolais, les gouvernements congolais vont commencer à les payer, ou bien c'est toujours les Sud-Africains qui vont commencer à profiter de ces employés-là.
La deuxième question rapidement.
La deuxième question, c'était de savoir les travaux vont prendre pendant 6 mois, et 6 ans plus tôt. Alors pendant ces 6 ans-là, est-ce que
dommage qu'on a perdu Philippe. Il a posé la question, la nature des emplois qu'il demandait tout à l'heure à notre invité. Est-ce qu'ils seront sous quelle responsabilité des investisseurs du gouvernement congolais? Et nous écoutons rapidement Claude. Vous êtes ici à Kinshasa, Claude. Aussi, en 30 secondes, parce que là, on n'a plus que 2 minutes pour conclure.
Oui, bonjour, Viro. Bonjour à tous les auditeurs.
Rapidement, Claude, oui.
Bon problème, est celui-ci. Il ne faut pas nous endormir. On a beaucoup endormi. Dès le départ avec le projet des IDA, il fallait qu'on électrifie toute la République. Mais on ne trouve pas d'importance pour nous électrifier, on va avec le courant plus loin. Alors, demandons à ces gens-là, si vous vendez notre courant hier, prenez le fisc et cet argent, construisez-nous des mini-barrages parce que nous sommes vraiment un scandale hydraulique. Construisez-nous un mini-barrage. Et faites l'interconnection, on peut alimenter toute la République.
Voilà, vous estimez que oui.
Vous pouvez être organisé aussi n'importe comment, mais à pas de la rigueur, on vole l'argent. De la semaine, il y a des gens qui payent les courants. De la Zambie, on détourne cet argent.
Voilà, vous estimez, Claude, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, vous estimez qu'on pouvait, avec des investissements, faire des micro-barrages, ça pouvait résoudre le problème d'électrification de la RDC, et vous avez évoqué la question de la rigueur. Pascal Moubalama, et Kiki Samoussaï nous ont écrit aussi sur la page Facebook en encourageant, mais en souhaitant que les projets puissent profiter à la population. Merci aux uns aux autres. On revient à vous, ingénieur Bernard Ebiaïlé, parce que là, on doit terminer vraiment cette émission. En une minute, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'avancement de ces projets et qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir en une minute pour conclure cet échange?
Merci beaucoup. Je pourrais dire que les auditeurs se calment. Les projets se préparent minutieusement avec des conseillers de tout niveau pour éviter justement les erreurs qu'on a commises dans le passé avec INGA 1 et INGA 2. On a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, on prend toutes les précautions pour que le projet se réalise en toute quiétude et ça donne l'heure de piétiner un peu, mais ce n'est pas le cas. L'auditeur qui a demandé l'écoute, l'énergie va coûter combien, à combien on va vendre à la RSA.
Mm-hmm.
Il y a des études techniques complémentaires qui sont en train d'être menées. Une des études, c'est l'étude sur les aspects tarifaires. Quand on aura réalisé cette étude, on saura avec précision à combien on va vendre l'énergie d'une à trois bas chutes à la RSA.
Merci.
Et même aux autres clients, parce qu'il y a la RDC qui doit acheter aussi, on doit préciser à combien la RDC va acheter aussi cette électricité.
Voilà.
Quant à la construction des lignes centrales dans le pays.
En 10 secondes, rapidement, en 10 secondes, parce qu'on a perdu.
L'auditeur peut se tranquilliser. Parallèlement à la construction du projet INGA 3 Bachute, il faut que nous cet investi,
en tout cas,
à mettre en place
merci.
De construction.
Merci beaucoup, monsieur Biaïlé. Merci beaucoup, monsieur Biaïlé. Là, on n'a que 30 secondes pour libérer à ce studio, passer à notre programme. On pourra peut-être revenir encore dans une émission prochainement pour aborder d'autres aspects que nous n'avons pas évoqués. Nous vous disons vraiment merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.